parfois en parlant de la pleine conscience, sati. Le Bouddha dit que c'est une excellente façon de vivre. Et il parle de même une fois éveillé, que ça demeure une excellente façon de vivre. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant que la pleine conscience, ce soit un élément essentiel, vital sur le chemin, mais que ce soit aussi quelque chose qui demeure. C'est-à-dire, je vais être très conscient pour, être au courant de mes façons de fonctionner, de mon impact, de ma façon d'être en relation avec les choses. Et une fois que c'est réglé, ben, je vais devenir inconscient. Non, hein? Alors, c'est le chemin, c'est aussi, on pourrait dire, le résultat du chemin, d'être éveillé à ce qui se passe. Et oui, il en parle comme ça, c'est une excellente façon de vivre. Ah oui, une fois éveillé, la meilleure façon de passer le temps, c'est d'être conscient, c'est d'être là où on est, avec sensibilité ou sans soin. J'ai cru remarquer que pour moi, c'est vrai aussi. Je me retrouve dans une situation difficile, un conflit ou quelque chose auquel je ne m'attendais pas, si je me rappelle que c'est possible d'y être d'une façon particulière, avec soin, pour moi, vous voyez, pour vous, et pour moi, je trouve toujours que c'est aidant. Entre être inconscient dans la réactivité, etc., puis d'être conscient, oh, là, c'est difficile en ce moment, entre nous, pour moi, dans cette situation. De savoir qu'il y a un corps qui est là, qui respire, alors que je pourrais... De savoir qu'on est ici, qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui, il y a l'espace dans la pièce. Oui, une grosse réaction, mon cœur se serre, je voudrais me défendre, ou faire payer, ou agresser. Ou... OK, beaucoup, beaucoup d'énergie. Soyons très attentifs. Très, très attentif à ce qui se passe chez l'autre. Au moment d'être pleinement conscient, pour moi, c'est comme si la pleine conscience ouvrait la porte à mes valeurs, me permettait de me rappeler de mes valeurs. Ah oui, Pascal, il y a le respect, la considération, l'intégrité, dis pas quelque chose qui n'est pas juste, l'honnêteté, le courage, toutes ces qualités-là sont, pour moi, apparaissent au moment de devenir conscient, de prendre soin de ce qui se passe. J'ai accès au meilleur de moi-même, si on peut dire. L'autre aussi, peut-être. Alors que s'il n'y a pas la pleine conscience, c'est pas certain du tout. Au moment où quelque chose de beau, de bon se passe, pour moi, ça semble être une excellente façon d'y être, en pleine conscience. Une alternative que je connais bien, c'est l'exubérance. Et ça, c'est un peu déconnecté de la réalité. Ça peut être bien, des petits pics, mais souvent, en fait, c'est pas aussi satisfaisant que d'être véritablement là pour vivre une expérience qui est belle, peut-être profonde. J'ai un problème mécanique. D'ailleurs, juste là, je marchais sur la terrasse, la très, très belle terrasse que Narayan a construite. Et au moment où je me retournais, mon regard balayait un peu le bassin avec les fleurs. Ça me semblait être une excellente façon de vivre l'affaire que d'avoir un mélange de présence, de calme, pour être touché par la beauté éphémère du lieu. Hein. Éphémère dans le sens où Dans 48 heures, j'y serai plus. Mais éphémère dans le sens où ça existe le temps que mon regard passe, puis tout à coup, c'est fini. C'est plus dans mon champ de vision. Et d'y être, me semble être une... On pourrait dire de la gratitude, en fait. On dirait, ah tiens, il y a une qualité de présence qui me permet de vivre cette expérience-là sans m'y accrocher. Ah, oh, il faut que je prenne une photo, il faut que j'amène mes amis ici, etc. Juste d'être là, de vivre, de permettre à cette expérience-là d'être, puis de se dissoudre naturellement. Dans un sens... Mary Oliver, qui est une poétesse américaine, en parle vraiment très bien dans un de ses poèmes, puis là je vais la paraphraser, ce qui est la pire chose à faire avec un poème ou une poème. Traduction libre et approximative. Mais quand même, le sens, je pense, demeure. Puis dans un de ses poèmes, elle dit quelque chose comme ça, peut-être certains d'entre vous le connaissent, ce poème, mais dit quelque chose comme, bon, c'est de mémoire, mais c'est quoi nos deux tâches, les deux choses qu'on a à faire? Love and let go. Aimer ce qui est et le laisser partir. C'est ça, notre tâche comme être humain. To love and let go. Pour moi, ça fait référence aux deux dernières questions des trois questions. Quelle est ta relation à to love? Et qu'est-ce qui se passe après? To let go. Donc, dans le rapport à ce qui est beau, cette pleine conscience peut nous aider à, oui, avoir un rapport sain, vibrant, nourrissant. Pleine conscience, c'est l'élément requis pour le développement de la sagesse, pour la compréhension plus profonde. Ça semble être bien, comme moi je remarque, dans à peu près toutes les situations. Si j'ai quelque chose que je dois apprendre, d'avoir cette présence attentive risque de m'aider à recevoir l'information. Plutôt que « Ah oui, il faut que je comprenne de quoi il s'agit, de quoi il s'agit. » Un peu de calme, un peu de curiosité. Si j'ai une tâche à accomplir que je veux pas faire, à laquelle je résiste, si je me souviens de ça, je peux me dire « Ah tiens, Pascal, est-ce qu'on pourrait amener un peu d'engagement, de présence, de curiosité ?» Cette situation, ce coup de fil que je dois donner, que j'aimerais mieux ne pas avoir à donner. Est-ce que je peux amener un peu de curiosité? Puis là-dedans, oui, pour moi, il y a un paquet de choses qui sont possibles. Je cherche encore. Alors, j'ai parlé quelquefois des quatre fondements de l'attention sans les définir. Je vais le faire d'une façon très légère, en tout cas c'est ce que je voudrais juste là. Donc ce sont les aspects de notre expérience auxquels on est invité à s'intéresser. Alors il y a le corps, l'expérience physique. C'était déjà là avant la retraite. C'est là maintenant, ce sera là après la retraite. Toujours quelque chose qui mérite qu'on... On y retourne. On entre en contact avec le souffle, ou les sensations du corps, ou l'environnement, ce qui semble juste, ce qui est abordable. Alors le corps. Après ça, le Bouddha nous invite à être particulièrement sensible, présente, présent, quand il y a une expérience de plaisir ou de déplaisir ou son absence. C'est comme s'il dit, oh, attention, plaisir. comment vas-tu connaître cette... Il y a beaucoup de potentiel de souffrance, là. Il y a beaucoup de potentiel de beauté, là. Comment vas-tu rencontrer ça? C'est délicat, attention. Alors ça, c'est le deuxième fondement, les plaisirs des plaisirs. Le troisième fondement, c'est les états mentaux, tels qu'ils sont, état d'esprit, état du cœur. De les noter. Et le quatrième fondement, on pourrait résumer en disant, c'est le Bouddha qui nous invite à être particulièrement intéressés au passage des émotions affligeantes ou états mentaux affligeants vers les états mentaux qu'on pourrait décrire comme libérateurs ou aidants, bénéfiques pour soi et pour les autres. Alors voyez-vous, le champ de pratique très particulier, c'est pas seulement les états mentaux, mais comment m'aider, m'accompagner d'un état à un autre. Comment m'aider de, si je vois que l'esprit s'est accroché à quelque chose, une opinion ou une affaire, de reconnaître ça. Puis donc, c'est la pratique, hein, de voir comment est-ce que je peux aller de l'un, de l'esprit qui s'est rigidifié, accroché, pris les pieds dans, puis comment m'accompagner ou accompagner l'esprit ou le cœur vers une autre façon d'être en relation. C'est beau, non? Pour moi, je trouve que c'est magnifique. Si on y pense comme ça au fondement de l'attention, aux aspects de l'expérience. Ah, il y a le corps, les sensations, la respiration. Il y a les expériences de plaisir, des plaisirs, fais attention. Ça vaut la peine. Il y a beaucoup à gagner en sagesse dans la relation à ces expériences-là. Ah, prends soin de tes états mentaux quand tu les remarques. Note lesquels sont présents, lequel est présent. Et intéresse-toi particulièrement à aller d'un état mental à un autre. Comment c'est possible, cette alchimie-là, de rigide à tendre, de sérieux à légèrement ludique, quand c'est possible, quand c'est approprié. Ce passage-là, oh, une belle vie de recherche, hein? C'est une façon de prêter attention aux choses. Hein? Parce que mon attention peut tout être sur ce que je préfère, ce que je voudrais, est-ce que ça va arriver. Et là, je m'entraîne à mettre mon attention sur ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Pascal, dans le corps? Excellente façon d'être, d'être conscient de son corps, de l'environnement. Plutôt que de ce qui devrait arriver, ce qui arrivera-t-il. Perdons un peu d'attention, fascination pour ça. Puis suivons les instructions du Bouddha. Voir, juste pour voir, qu'est-ce que ça pourrait donner, vers quoi ça pourrait mener, en moi, dans mes relations. Le Bouddha utilise cette belle image que plusieurs d'entre vous, je crois, connaissez. Mais bon, c'est un peu comme le chaperon rouge, c'est bien, bien plaisir juste à le revisiter. Oui, qu'est-ce qui arrive encore? Comment ça commence? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Donc le Bouddha dit, de la même façon que la pluie, quand elle tombe dans la montagne, quand les gouttes de pluie tombent dans la montagne, elles vont se rejoindre à un certain moment pour former un ruisseau qui très naturellement va se diriger vers une rivière, qui très naturellement va se diriger vers un fleuve, qui très naturellement va se diriger vers l'océan. De la même façon, très naturel, quand on prête attention, quand on laisse l'attention se coller à quelque chose, un phénomène, très naturellement, il y a un moment dans le développement de la pratique, on pourrait dire, très naturellement, quand on prête attention, la curiosité va naître à un certain moment. Si on s'attarde à quelque chose va être révélé à propos de ce phénomène-là. Et vous avez peut-être vécu ça ici, en nature, juste, je ne sais pas, en faisant la marche, je me rappelle peut-être un des premiers jours où je faisais la marche, ça faisait plusieurs minutes, peut-être 20 minutes, que je marchais sur le même petit quelques pas. Et à un moment donné, tout à coup, est apparu plusieurs petites crottes de lièvre. Il y en avait vraiment plusieurs. Et je marchais dessus depuis plusieurs minutes sans me rendre compte qu'il y avait cette chose très jolie. Bon, je dis lièvre, mais ça peut être autre chose, mais mon interprétation. Mais du moins, il y avait un phénomène qui n'avait pas été vu du tout. Bon, vous allez me dire, les crottes de lapin, on s'en fout. Mais quand c'est la même marche qu'on fait, puis qu'on prête un peu attention, encore et encore, puis tout à coup, ah! On voit une attitude intérieure qui était là, mais qu'on n'avait pas remarqué. Et tout à coup, ça apparaît. Une sorte d'impatience ou d'attente de quelque chose, ou de semi-présence. Puis oups, tout à coup, ça se focalise. Ah, je ne suis pas vraiment présent. Je suis à moitié présente ou présent. Ou autre chose. Une dureté, ou une absence des connexions. Donc, très naturellement, quand l'attention est offerte, on pourrait dire, très naturellement va se développer la curiosité. Très naturellement, ça va être énergisant. L'énergie va arriver, parce que la curiosité est un facteur énergisant. Très naturellement, on va pouvoir faire l'expérience, ici et là, de la joie d'être engagé, d'être curieux, d'être au contact d'eux. Et quand il va y avoir la joie dans la pratique, naturellement, l'esprit va se calmer. L'esprit qui se calme très naturellement va se concentrer, va s'unifier. Il n'y aura plus d'éparpillement. Très naturellement, un esprit unifié va devenir équilibré, équanime. Très naturellement. Très naturellement, un esprit comme celui-ci va découvrir des choses sur la réalité. D'autres façons d'être en relation. La nature éphémère, passagère, fluctuante, fugitive, fugace, fuyante, des phénomènes. Alors, de la même façon que la pluie tombe dans la montagne, devient une source ou un ruisseau, une rivière, un fleuve, l'océan, de la même façon, l'attention qui est offerte encore et encore va faire naître en soi la curiosité envers les phénomènes. La curiosité va faire naître l'énergie qui va amener de la joie ou du contentement, quelque chose dans ces eaux-là. Et naturellement, l'esprit va être moins discursif, va avoir moins de choses à dire, plus calme, tranquille. Naturellement, va s'unifier, demeurer au contact, plutôt que s'éparpiller. Naturellement, va être moins réactif, plus équilibré. Naturellement, va développer la sagesse. Puis de la même façon que quand la pluie tombe, elle rencontre un paquet d'obstacles avant de devenir une source. Des roches, des branches, de la boue, etc. De la même façon, ben, notre pratique ne sera pas aussi comme ça. Ça va être un peu plus chaotique, un peu plus... Puis je finis avec l'image du bol, parce que je ne suis pas certain d'avoir enseigné une retraite sans l'amener. Peut-être une ou deux sur quelques centaines. Mais je le fais parce que je pense que c'est aidant. Voyez si ça vous aide. Ça vient de Joseph, un de mes enseignants. Cher. Et donc, au début de la retraite, puis peut-être encore maintenant, c'est très inégal tout ça, mais voyez ce que ça veut dire pour vous. Quand on arrive à la retraite, tout à coup, on nous dit que la valeur principale ici, c'est la pleine conscience. Alors qu'on le veuille ou pas, pression sociale, on met la pleine conscience à l'avant-plan de notre expérience. Puis là, tout à coup, oups, ça glisse vers l'obsession, vers le passé, on la remet, oups, le futur, oups, les considérations à propos de moi, l'autre, etc. Est-ce que vous remarquez, reconnaissez ça? Puis il y a cet effort qu'on tente d'avoir, de faire juste, c'est de pas trop y aller trop, mais de juste reprendre, sans juger, quelqu'un faisait référence à ça. Est-ce que vous m'entendez encore? Ok, c'est éphémère. Et maintenant, vous ne m'entendrez plus, je vous le promets. D'ailleurs, Donc, on remet la pleine conscience et là, ça s'échappe. Ou tout à coup, on oublie complètement la marche, ou qu'on est assis ici, on est sous l'emprise des pensées, des émotions, et on revient à la pleine conscience. Ah, plutôt que d'être dans l'obsession à propos de cette émotion, suivre cette émotion, je me dis, ah tiens, comment elle est sentie? Plutôt que l'histoire que raconte la colère ou la peur, qu'est-ce que c'est cette expérience? Et donc, je m'intéresse au phénomène. Je ne sais pas... Ah non, il ne faut pas que je chante d'émotion, il faut que je sois juste un être respirant. C'est pas ça, la pratique. Hein. C'est au moment où je me rends compte qu'il y a une émotion, juste de m'y intéresser d'une autre façon. Pas de la pousser de côté. Et donc, je ramène l'attention qui glisse dans les pensées habituelles, obsessives, compulsives. Et je ramène l'attention. Et je ramène l'attention. Et il y a un moment où il peut y avoir un revirement du bol. Et là, tout à coup... C'est possible qu'on fasse l'expérience de ça aujourd'hui, qu'on l'ait fait. Ça peut être pour quelques secondes, ça peut être pour plusieurs minutes. Et là, l'attention est établie. Ça devient le default setting, on pourrait dire en anglais. Et parfois, tout à coup, une pensée vient, mais oups, ça revient très naturellement. L'effort nécessaire n'est plus le même. Oh, la pleine conscience. C'est plutôt... Ah, ça, c'est parti dans le passé, oups, tout à coup les pas réapparaissent. Le souffle ou les sons ambiants, ou l'espace, ou le silence, ou la conscience de l'état. Et quand il y a ça, cette façon-là de vivre, tout à coup on pourrait dire, même si c'est juste pour quelques secondes, ce que j'aime beaucoup de l'image du bol, c'est que là, on est protégé. Et qu'est-ce qui ne rentre plus ici? C'est le désir d'autre chose, l'aversion envers ce qui se passe. L'esprit n'est plus amorphe. J'ai pas assez d'énergie. Il n'y a pas de problème d'énergie. Et il n'y en a pas trop d'ailleurs, ni trop peu. Hein. On est juste là, un pas, ou je ne sais pas, les poissons qui tournoient, ou le goût, la texture qui est connue. Ou le son de la rivière, ou le corps qui respire, couché dans le lit. Et là, il n'y a pas de « j'ai pas assez d'énergie, trop d'énergie, comment gérer mon énergie, je suis agité ». Il n'y a pas de « trop peu d'énergie, pas trop d'énergie », il n'y a pas de doute. Est-ce que je pratique bien, vais-je y arriver, tout ça. On est protégé, il n'y a plus ça. Ça fait vraiment du bien, même si c'est quelques minutes. Il y a juste... Et ça peut même être au milieu de la douleur. Ça peut être au milieu de la douleur physique. Ah. Tout à coup, il n'y a plus, si ça continue, il y a juste, waouh, ça perce, je ne sais pas quoi d'autre, presse, fortement. Il n'y a pas de problème d'énergie, je ne suis pas épuisé, il y a juste cette expérience-là qui peut être agréable ou désagréable, ou juste le cœur brisé, c'est exactement comme ça. Il n'y a pas cette réactivité de « mais je veux pas », il y a juste « ah, c'est comme ça ». C'est exactement comme ceci en ce moment. Donc c'est une forme de protection pour l'esprit. Il y a une forme de protection qu'on a pris au début de la retraite. On s'est dit « tiens, on ne va pas se blesser mutuellement de façon intentionnelle ». Alors on a parlé des préceptes bouddhistes. Il y a plusieurs façons, mais un code de vie. On se dit, tiens, je reconnais que là-dedans, il va y avoir de la rage, de la colère, toutes sortes de choses, mais je m'engage à faire très attention pour ne pas l'exprimer par les gestes et la parole. Alors, il y a une sorte de protection qu'on a mis, avec laquelle on pourra partir, si on veut. Dire, tiens, je veux un mode de vie éthique. Je ne veux pas prendre ce qui ne m'est pas offert, je ne veux pas blessé avec ma sexualité. Alors ça, c'est un mode de protection. Il y a un autre mode de protection qui est une présence accrue, qui fait que momentanément, même dans le cœur, l'avidité ne va pas monter. Parce que la présence, l'intérêt pour le réel est si fort que je ne cherche pas à obtenir autre chose. Donc c'est une protection pour moi et pour les autres. Puis un autre niveau de protection qu'on appelle l'éveil, et d'aller retirer même la possibilité d'avidité, de haine. Ça, c'est sur du plus long terme. Et nous, ici, cette semaine, on a travaillé sur les trois paliers. Et on continue aujourd'hui, on a cette chance unique. Là. Parce que, ben oui, l'affaire va se dissoudre à un moment donné. Yeah! Oh non! Mais aujourd'hui, c'est une journée très précieuse parce qu'il y a plusieurs journées d'engagement et d'investissement derrière. Et donc, il ne faut pas la dilapider, est-ce que ce serait un terme? Elle est très précieuse, cette journée. La cause principale d'un moment de pleine conscience, qu'est-ce que c'est? La cause principale d'un moment de pleine conscience? Oui. C'est un moment de pleine conscience précédent. Et donc, nous, on en a quelques-uns derrière nous, là, des moments de pleine conscience. Alors, les chances qu'il y ait de la pleine conscience aujourd'hui sont plus élevées que... Puis on peut peut-être même le remarquer de façon factuelle, que plus de pleine conscience aujourd'hui qu'il y en avait lundi soir, ou mardi matin, jadis. Et donc aujourd'hui est une journée très très précieuse. On pourrait la rater parce que l'esprit qui s'échappe pourrait pourrait ne pas reconnaître l'opportunité. Il pourrait penser que là c'est le temps de retourner à la maison, de préparer le départ. Alors c'est très délicat ici. Je finis en disant qu'une des formes de la sagesse et du discernement, c'est la capacité de reconnaître les opportunités pour la pratique. Alors, la capacité de reconnaître qu'on a une opportunité aujourd'hui, c'est une expression de la sagesse. Et après, on découvrira que oui, on peut ramener ça à la maison, au travail, dans les relations, devant les difficultés, devant la beauté. On va découvrir tranquillement, peut-être, que, ah oui, ici, ça serait tout indiqué d'être présente, présent, particulièrement attentive ou attentif. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Parce qu'il y a les autres journées derrière. Est-ce qu'on va retourner en retraite? Personne ne sait. Même si votre idée est faite là-dessus, jamais. Ça reste seulement une idée pour le moment. On pratique un peu? Alors, ne pas bien faire, ou se braquer, ou se tendre d'aucune façon, ça va pas être aidant. Le mieux, c'est de penser en termes de relaxation et éveil. Les deux, c'est deux sortes de qualités. Hein? Une détente qui peut passer par la confiance dans le processus, ou la bienveillance, ou la permission de ne pas faire parfaitement. Un mélange de détente, si c'est possible, où c'est possible. Et l'expiration, c'est un très bon moment pour relâcher les tensions qui peuvent être relâchées, et même les attitudes qui peuvent être un peu nuisibles ou faire obstacle. Sur l'expiration, lâcher prise, autant que faire se peut. Alors, un mélange de détente et de sorte d'engagement, ou de vivacité, ou de curiosité, juste la bonne dose pour rester éveillé à ce qui se passe. Intérêt pour le réel. simplement découvrir qu'il y a un environnement vivant ou un corps vivant, c'est suffisant. Le reste va se révéler, apparaître de lui-même. En étant là avec les sons ou la respiration, on va découvrir forcément à un moment l'état de la personne qui médite. Ça va nous apparaître. Juste en étant là avec le souffle ou l'espace ou le silence. Même façon que le corps repose sur terre, sur la terre, le coussin, le banc, la chaise. De la même façon que le corps est posé au sol, de la même façon l'attention se pose dans l'expérience, dans le corps ou l'environnement, ou le cœur.